Chapitre 32. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec de l'argent. Salvatore, adossé au tronc d'un arbre, regarda un instant le général le bastard de Prémont. Le visage de M. Saranti lui-même, en entendant prononcer son arrêt de mort, était moins abattu et moins pâle que ne l'était celui du général en entendant prononcer cette cruelle sentence de la bouche d'amis auquel il venait, au risque de sa vie, demander qu'on l'aidât à sauver celle de son ami. Salvatore s'approcha de lui. Le général lui tendit la main. « Monsieur, lui dit le général, je ne vous connais que par votre nom. Ce nom, vos amis l'ont prononcé à haute voix, et il me paraît d'un heureux augure. Qui vous nomme dit sauveur ?»« C'est en effet un nom prédestiné, monsieur, répondit en riant Salvatore. Vous connaissez Saranti ?»« Non, monsieur, mais je suis l'ami intime et surtout l'ami dévoué et reconnaissant de son fils. C'est vous dire, général, que je porte la moitié de votre douleur et que vous pouvez, au bénéfice de M. Saranti, disposer de moi corps et âme. » « Vous ne partagez donc pas l'opinion de nos frères ?» demanda vivement le général, que ces bonnes paroles avaient momentanément ranimé. « Écoutez, général, dit Salvatore, le mouvement des masses, qui est presque toujours juste parce qu'il est instinctif, est souvent aussi aveugle, sévère et rigide. Chacun de ces hommes qui viennent de ratifier la condamnation de M. Saranti eut rendu, consulté isolément, un autre arrêt, c'est-à-dire celui que je vais porter moi-même. Non, du fond de ma conscience, je ne crois pas M. Saranti coupable. Celui qui joue depuis 30 ans sa tête dans les hasards sanglants du champ de bataille, dans les luttes mortelles des partis, celui-là ne saurait commettre un crime lâche, celui-là ne saurait être un misérable voleur, un vulgaire assassin. J'affirme donc moralement l'innocence de M. Saranti. » Le général serra la main de Salvatore. « Merci, monsieur, lui dit-il, de me parler ainsi. » Mais, continua Salvatore, du moment où je vous ai offert mon appui, je me suis en même temps mis à votre disposition. Que voulez-vous dire? J'écoute avec anxiété. Je veux dire, monsieur, que dans la situation présente, il ne suffit pas d'affirmer l'innocence de notre ami, il faut la prouver, et la prouver irrécusablement. Dans les guerres qui se font de conspirateur à gouvernement, et par conséquent de gouvernement à conspirateur, toutes les armes sont bonnes, et celles que deux hommes loyaux refuseraient souvent pour un duel sont avidement saisies par les partis. « Expliquez-vous. Le gouvernement veut la mort de M. Saranti. Il la veut ignominieuse, parce que cette ignominie se répandra sur ses adversaires et qu'on dira que tous les conspirateurs sont ou doivent être des misérables puisqu'ils ont accepté pour chef un homme qui était un voleur et un assassin. « Oh, fit le général, voilà donc pourquoi l'avocat du roi a écarté l'accusation politique. » Et voilà pourquoi M. Saranti tenait si fort à y rentrer. Eh bien ? Eh bien, le gouvernement ne cédera qu'à des preuves visibles, palpables, flagrantes. Il ne s'agit pas seulement de lui dire « M. Saranti n'est pas coupable du crime dont il est accusé », il faut lui dire « Voilà le coupable du crime dont on accuse M. Saranti ». Et monsieur, s'écria le général, ces preuves les aurez-vous ? Ce véritable coupable pourrez-vous le produire ? Je n'ai point ces preuves, je ne connais point ce coupable, répondit Salvatore. Mais, peut-être suis-je sur la piste. Ah, parlez alors, parlez, et vous serez véritablement digne de votre nom, monsieur. Eh bien, dit Salvatore en se rapprochant du général, écoutez ceci, monsieur, que je n'ai dit encore à personne, et que je vous dis à vous. Dites, dites, murmura le général en se rapprochant de son côté de Salvatore. Dans cette maison où était entré M. Saranti comme précepteur et qui appartenait à M. Gérard, dans cette maison d'où il a fui le 19 ou le 20 du mois d'août 1820, car toute la question peut être dans la date précise de la fuite, dans le parc de Viry, enfin, j'ai trouvé la preuve qu'un des enfants au moins avait été assassiné. Oh, fit Monsieur de Prémont, croyez-vous que cette preuve ne revienne pas à la charge de notre ami? Monsieur, quand on poursuit la vérité, et c'est la vérité que nous poursuivons, n'est-ce pas, car M. Sarenti coupable, nous l'abandonnerions comme les autres l'ont abandonné. Quand on poursuit la vérité, il faut saisir toute preuve. Cette preuve fut-elle en apparence contre celui dont on veut faire reconnaître l'innocence? La vérité a sa lumière en elle-même. Arrivons à la vérité et le jour se fera. Soit, maintenant, comment avez-vous acquis cette preuve? Une nuit que j'errais avec mon chien dans le parc de Viry, pour des causes tout à fait en dehors de l'affaire qui nous préoccupe en ce moment, j'ai trouvé, au fond d'un fourré, au pied d'un chêne, dans un trou que mon chien s'acharnait à creuser, le squelette d'un enfant qu'on avait enterré debout. Et vous croyez que c'était celui d'un des deux enfants disparus? C'est plus que probable. Mais l'autre enfant, car il y avait un petit garçon et une petite fille, l'autre enfant, je crois l'avoir retrouvé aussi. Grâce au chien, toujours. Oui, mort ou vivant? Vivante, car c'était la petite fille. Eh bien? Eh bien, de ce double incident, j'ai auguré que si je pouvais agir librement, j'arriverais peut-être à la connaissance complète du crime, et que cette connaissance me mènerait inévitablement à celle du criminel. Mais, en effet, si vous avez retrouvé la petite fille vivante, s'écria le général. Vivante, oui. Elle devait avoir 6 ou 7 ans déjà à l'époque où le crime a eu lieu. 6 ans, oui. Elle pourrait donc se souvenir. Elle se souvient. Eh bien, alors. Et seulement, elle se souvient trop. Je ne comprends pas. Lorsqu'on tourne les yeux de la pauvre enfant du côté de cette terrible catastrophe, son esprit se trouble. Elle tombe en proie à des crises nerveuses qui peuvent lui faire perdre la raison. De quel poids voulez-vous que devienne la déposition d'une enfant qu'on accusera de folie et que, d'un mot, on rendra folle, effectivement? Oh, j'ai tout bien pesé, allez. Eh bien, voyons le mort au lieu du vivant. Si le vivant se tait, le cadavre, lui, ne saurait-il parler? Oui, si je pouvais agir librement. Qui vous en empêche? Allez au procureur du roi, dénoncez-lui tout, chargez la justice de trouver cette lumière que vous invoquez, et, oui, et la justice, en une nuit, fera disparaître les traces que viendra le lendemain chercher la justice. Ne vous ai-je pas dit que la police avait tout intérêt à écarter ses preuves afin de noyer M. Sarenti dans cette boueuse affaire de vol et d'assassinat? Alors, poursuivez l'affaire par vous-même. Poursuivons-la. Vous dites que vous pourriez arriver à la vérité s'il vous était permis d'agir librement. Qui vous empêche d'agir librement, dites? Oh, ceci est une toute autre affaire, non moins grave, non moins sérieuse, non moins infâme que celle de M. Sarenti. Ah, soit, mais agissons. Agissons, je ne demande pas mieux, mais d'abord, quoi? Trouvons le moyen de fouiller librement la maison et le parc où le crime, ou plutôt où les crimes, ont été commis. Mais ce moyen est-il possible de le trouver? Oui. À quel prix? À prix d'argent. Je vous ai dit que j'étais immensément riche. Oui, général, mais cela ne suffit pas. Que faut-il encore? Un peu d'audace et beaucoup de persistance. Ah, je vous ai dit que pour arriver à ce but, j'offrais ma fortune, non seulement ma fortune, mais aussi mon bras, non seulement mon bras, mais encore ma vie. Eh bien alors, général, je crois que nous allons commencer à nous entendre. Puis, regardant autour de lui et remarquant que la lune, tombant en plein sur le sycomore au tronc duquel il était appuyé, les mettait en pleine lumière, lui et le général, « Venez sous l'ombre des arbres, général, dit-il, car nous allons parler de choses où nous risquons notre vie, non seulement sur l'échafaud, mais encore au coin d'un bois, à l'angle d'un mur. Nous avons cette fois affaire en même temps à la police, comme conspirateur, et à des misérables, comme hommes de bien. » Et Salvatore entraîna effectivement M. le bastard de Prémont à l'endroit du bois où l'ombre était la plus épaisse. Le général laissa au jeune homme le soin de jeter un regard d'investigation autour de lui. Il lui donna le temps d'écouter jusqu'au moindre bruit venant à son oreille. Et puis, lorsqu'il le vit à peu près rassuré, « Parlez, dit-il. « Eh bien, général, reprit Salvatore, il faudrait d'abord nous rendre complètement maîtres du château et du parc de Viry. Rien de plus facile. Comment cela? Sans doute, il n'y a qu'à les acheter. » « Malheureusement, en général, ils ne sont pas à vendre. »« Bon, est-il quelque chose qui ne soit pas à vendre? Hélas, oui, général, justement, cette maison et ce parc. Pourquoi cela? Parce qu'ils servent de paravent, de retraite, d'abri, à un crime presque aussi monstrueux que celui dont nous cherchons la preuve. Alors cette maison est habitée par un homme tout-puissant. Comme position politique? Non, comme affiliation religieuse, ce qui est bien autrement solide. Et comment donc appelez-vous cet homme? Le comte Loredan de Valgeneuse. Attendez, dit le général, appuyant son manteau sur sa main, je connais ce nom. C'est probable, en effet, puisque ce nom est un des plus connus de l'aristocratie française. Mais si j'ai bonne mémoire, dit le général en rappelant ses souvenirs, le marquis de Valgeneuse, celui que j'ai connu, était un homme d'une grande honorabilité. Oh oui, le marquis, s'écria Salvator, c'était le plus noble cœur, l'âme la plus loyale que j'aie jamais connue. Ah, dit le général, vous l'avez connu aussi, monsieur? Oui, répondit simplement Salvator, mais ce n'est point de lui qu'il est question. Ah, c'est du comte, alors. Ah, je ne dirai point de celui-là ce que je disais de son frère. Salvator se tut, comme s'il ne voulait point formuler d'opinion à l'endroit du comte de Valgeneuse. Le général continua. Qu'est devenu le marquis? Il est mort, répondit Salvator en baissant douloureusement la tête. Il est mort? Oui, général, subitement, d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Mais il avait un fils naturel, je crois. C'est bien cela. Qu'est devenu ce fils? Mort, un an après son père. Mort? Je l'ai connu enfant, pas plus haut que cela, dit le général en baissant sa main au niveau de l'herbe. Oh, c'était un enfant au-dessus de l'intelligence de son âge et d'une fermeté extraordinaire. Mort? Et comment? Il s'est brûlé la cervelle, répondit laconiquement Salvator. Oh, quelque grande douleur, sans doute. Oui, probablement. Alors c'est le frère du marquis qui a acheté le château et le parc de Véry? C'est le fils de ce frère, le comte Loredan, qui a, non pas acheté, mais loué ce parc et ce château. Ah, je lui souhaite de ne pas ressembler à son père. Le père est le génie de l'honneur et de la probité, comparé à son fils. Vous ne faites pas l'éloge du fils, mon cher monsieur. Encore une grande maison qui s'en va, dit mélancoliquement le général, et qui va tomber en poussière, ou, ce qui est bien pis, en honte. Et puis, après un moment de silence, et que fait monsieur Loredan de Valgeneuse dans cette maison à laquelle il tient tant? Demanda le général. Ne vous ai-je pas dit que la maison abritait un crime? Eh bien, voilà justement pourquoi je vous demande ce que monsieur de Valgeneuse fait dans cette maison. Il en fait la prison d'une enfant qu'il a enlevée. D'une enfant? Oui, d'une jeune fille de 16 ans. D'une jeune fille, 16 ans, murmura le général, juste l'âge de la mienne. Et puis tout à coup. Mais puisque vous connaissez le crime, monsieur, demanda-t-il, ou plutôt, puisque vous connaissez le criminel, pourquoi ne le dénoncez-vous pas à la justice? Parce que dans les temps mauvais comme ceux où nous sommes, général, il y a non seulement des crimes sur lesquels la justice ferme les yeux, mais encore des criminels qu'elle prend sous sa protection. Oh, dit le général, et la France entière ne se soulève pas, ne se révolte pas contre un pareil état de choses? Salvator sourit. La France attend une occasion, général. On peut la faire naître, il me semble. Nous ne nous rassemblons que dans ce but. Revenons au plus pressé, car la France ne se révoltera pas exprès pour sauver M. Sarranti, et il faut que je le sauve. Voyons, si la maison n'est pas à vendre, par quels moyens espérez-vous vous en rendre maître? Avant tout, général, laissez-moi vous mettre au courant de la situation. J'écoute. Un de mes amis a recueilli, voici 9 ans déjà, à peu près, une jeune fille perdue. Il l'a élevée, il a fait son éducation. L'enfant, devenue charmante, atteignit 16 ans. Il allait l'épouser quand elle fut violemment enlevée du pensionnat qu'elle habitait à Versailles et disparut sans qu'on sût où elle était cachée. Je vous ai dit comment, le hasard me conduisant à la poursuite d'un crime inconnu, je retrouvais, à l'aide de mon chien, le cadavre d'un enfant. Pendant que j'étais agenouillé devant la fosse, qu'épouvanté, je touchais de mes doigts les cheveux de la victime, j'entendis un bruit de pas, et je vis s'approcher une espèce d'ombre vêtue de blanc. Je me tournai du côté de cette ombre, et à la clarté de la lune, je reconnus la fiancée de mon ami, celle qui avait été enlevée et dont on ignorait la retraite. J'abandonnai la recherche d'un crime pour me mettre à la poursuite d'un autre. Je me fis reconnaître de l'enfant et lui demandai pourquoi, muette et sans essayer de fuir, elle supportait sa captivité. Alors elle me raconta qu'elle avait menacé son ravisseur d'écrire, d'appeler, de fuir, mais que celui-ci avait obtenu un mandat d'amener contre Justin. Qu'est-ce que Justin ? Demanda le général avec une vivacité qui prouvait l'intérêt porté par lui au récit de Salvator. Justin est mon ami, c'est le fiancé de la jeune fille. Comment avait-on pu se procurer un mandat d'amener contre lui ? On lui avait imputé à crime sa bonne action, général. Cette petite fille perdue qu'il avait recueillie, on l'accusait de l'avoir enlevée. Le dévouement dont il l'entourait depuis 9 ans, c'était de la séquestration. Ce mariage qui allait avoir lieu, c'était de la violence. La jeune fille était soupçonnée d'appartenir à une famille riche. Or, le cas est prévu par le code qui condamne à 3 ou 5 ans de galère, selon la gravité des circonstances, l'homme convaincu d'avoir séquestré une mineure. Et vous comprenez, général, on eût fait les circonstances aussi graves que possible, de sorte que mon pauvre ami eût été condamné à 5 ans de galère pour un crime qu'il n'avait pas commis. Impossible, impossible ! S'écria le général. Monsieur Sarranti n'est-il pas condamné à mort comme voleur et comme assassin ? Répondit froidement Salvator. Le général inclina la tête. Tant de misère, murmura-t-il, tant d'infamie. Il faut donc attendre, et dans ce moment, si j'hésite à poursuivre les preuves de l'innocence de M. Sarranti, c'est que si je conduis la justice dans ce château et dans ce parc, celui qui menace croira que c'est un moyen de lui enlever sa proie, et aveuglément il se vengera sur Justin. Mais enfin, on peut pénétrer dans ce parc, sans doute, puisque je l'ai fait, moi. Si vous y avez pénétré, un autre peut y pénétrer comme vous. Justin y visite de temps en temps sa fiancée. Et tous les deux restent purs. Oh, tous les deux sont croyants en Dieu et incapables d'une mauvaise pensée. Soit, mais alors pourquoi Justin n'enlève-t-il pas à son tour la jeune fille? Et où la conduirait-il? Hors de France. Salvator sourit. Ah, vous supposez Justin riche comme monsieur de Valgeneuse, général. Mais Justin est un pauvre maître d'école qui gagne à grand-peine 5 francs par jour et qui nourrit avec cela sa mère et sa sœur. Mais n'a-t-il point d'amis? Si fait, il a 2 amis qui donneraient pour lui leur existence. Lesquels? Monsieur Müller et moi. Eh bien, monsieur Müller est un vieux professeur de musique et moi je suis un simple commissionnaire. Mais comme chef de vente, ne disposez-vous pas de sommes considérables? J'ai plus d'1 million sous la main. Alors, mais ce million n'est pas à moi, général, et je verrai l'être que j'aime le plus au monde mourir de faim, que pour le sauver, je ne distrairai pas 1 denier de ce million. Le général tendit la main à Salvator. C'est juste, dit-il. Puis il ajouta, je mets 100 000 francs à la disposition de votre ami, et ça c'est... C'est le double de ce qu'il faut, général. Mais quoi? Un dernier scrupule me tient. Un jour, sans doute, on connaîtra les parents de la jeune fille. Après? Mais si ses parents sont nobles, riches, puissants, n'auront-ils point à récriminer contre Justin? Contre l'homme qui a recueilli leur fille, qu'ils abandonnaient, qu'il a élevée comme l'enfant de sa mère, qu'il a sauvée du déshonneur? Allons donc. Ainsi, vous, général, si vous étiez père, si, en votre absence, votre enfant eût couru ces dangers que court la fiancée de Justin, vous pardonneriez à l'homme qui, loin de vous, eût disposé du sort de votre fille? Non seulement je lui ouvrirais les bras comme à l'époux de mon enfant, mais encore je le bénirais comme son sauveur. Alors, général, tout va bien en ce cas, et si j'avais un dernier doute, votre affirmation me l'enlève. Dans 8 jours, Justin et sa fiancée seront hors de France, et nous aurons toute liberté de visiter le parc et le château de Viry. Monsieur le bastard de Prémont fit quelques pas hors du bois, afin de se trouver sous un rayon de lune. Salvator le suivit. Arrivé à l'endroit qui lui parut favorable, le général tira de sa poche un petit agenda, écrivit sur une page quelques mots au crayon, déchira la page et, l'attendant à Salvator, « Tenez, monsieur, dit-il. »« Qu'est-ce que cela ?» demanda Salvator. ce que je vous ai offert, un bon de 100 000 francs sur monsieur de Marande. Ah, je vous ai dit que 50 000 francs suffiraient, et au-delà, général. Vous me rendrez compte du reste, monsieur. Il ne faut pas que dans une affaire de cette importance nous soyons arrêtés par une bagatelle. Salvatore s'inclina. Le général le regarda un instant, puis tendant la main vers lui, « Votre main, monsieur. » Salvatore saisit la main du comte de Prémont et la pressa vivement. « Je ne vous connais que depuis une heure, monsieur Salvatore, » dit le général avec une certaine émotion. « J'ignore qui vous êtes, mais j'ai beaucoup vu, beaucoup observé, beaucoup vécu. J'ai étudié des visages de tous les types et de toutes les couleurs, et je crois me connaître en homme. » « Eh bien, monsieur Salvatore, je vous le dis, et ce n'est là que l'expression affaiblie de ma pensée, vous m'êtes un des hommes les plus sympathiques que j'ai jamais rencontrés. » Et c'était vraiment, nous croyons l'avoir dit déjà, l'effet que produisait le beau et loyal jeune homme sur tous ceux qui s'approchaient de lui. À la première vue, on se sentait invinciblement attiré et entraîné. Il exerçait une sorte de fascination, et la conscience, prenant une figure humaine, n'en eut pas choisi une plus douce et plus expressive. Les deux nouveaux amis se serrèrent une seconde fois la main, et s'enfonçant sous l'allée de sycomore, ils gagnèrent la cave par laquelle, une heure auparavant, étaient déjà sortis les 19 autres conjurés. Fin du tome premier.